Chronique du Pays Toulousain. Une émission proposée par les Toulousains de Toulouse avec Aline Thomazin et Sébastien Pénary.
Bienvenue chers auditeurs dans cette chronique du Pays Toulousain. Bonjour Aline.
Bonjour Sébastien.
Bonjour Guy de Toulza. Nous allons continuer sur cette lancée de l'évolution des hôtels particuliers à Toulouse, reflet d'une société, d'un savoir, de savoir-faire.
Beau sujet. Quand on veut contempler Toulouse, évidemment, il y a tous ces hôtels particuliers magnifiques. Mais quel est le processus qui s'est mis en place pour qu'on puisse construire dans une ville qui est une ville de briques, des bâtiments où on va trouver de la pierre et où on va trouver finalement l'expression d'une architecture savante? Ce qui était autrefois largement une architecture de savoir-faire, enfin de maçon.
Voilà,
On comptait des architectes, bien sûr. Déjà.
Oui. À partir du moment où l'on va construire briques et pierres pour le décor, il va falloir savoir quel décor l'on met. Et j'évoquais la dernière fois l'hôtel de Boisson-Chevéry, parce que donc rue Malcousina, il est facile, c'est la maison d'Occitanie, il est facile, la porte est ouverte, donc on peut rentrer. J'avais évoqué la très belle fenêtre gothique qui se trouve sur la seconde cour, que l'on met dans les années 1470-1480. Quand on est dans la première cour, lorsque Chevéry va reprendre cet hôtel, puisqu'il va avoir également une partie qui permet d'avoir son commerce sur la rue d'Échange, il va modifier les fenêtres et il va insérer de nouvelles fenêtres à l'emplacement des fenêtres gothiques anciennes. Il modernise les fenêtres, et c'est un élément que l'on reverra assez souvent à Toulouse. Et il introduit les ordres antiques. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui est tout à fait important. Ce passage, on peut le voir dans un autre hôtel qui est également facile à voir. C'est d'une part l'hôtel d'Aüs, de Tonnoère, qui est sur la rue Ozène, qui est le Crédit Agricole, hein, si mes souvenirs sont bons, qui lui date de la fin du XVe siècle et qui a encore des fenêtres, je dirais, de type gothique. Et puis l'autre moitié de l'hôtel, puisque la rue Ozène est venue diviser en deux,
oui.
Voilà, a coupé en deux l'hôtel d'Aüs, c'est la partie qui a été reprise par Béringuier Meynier, qui est qu'on appelle aujourd'hui plus couramment l'hôtel du Vieux Raisin. Oui. Et quand on va dans la cour, on voit que l'on a une architecture fait par deux périodes différentes. La première, elle date des années 1515, c'est-à-dire l'arrivée de François Ier. Et on voit une architecture très italianisante, avec des pilastres ornés de candélabres à l'antique. Et c'est exactement ce que l'on va faire à Blois, c'est ce que l'on va faire dans les châteaux de la Loire à la même époque, au passage entre Charles VIII, Louis XII et François Ier. Donc,
On va s'inspirer. Et on va s'inspirer comment? Et ce sont des carnets de dessins qui circulent?
Ce sont des carnets de dessins qui circulent, évidemment. Mais les carnets de dessins, ils circulent depuis Villard de Haunecourt et depuis le XIIIe siècle. Hein. Bon, les architectes circulent. Mais il y a aussi, je crois, la volonté du commanditaire. L'architecte... Alors, il n'y a pas d'architecte au sens où nous l'entendons aujourd'hui.
Oui, bien sûr.
Il y a un maître maçon qui dirige des maçons et qui dirige des sculpteurs.
Pardon de vous interrompre, mais comment fait-on pour faire se rencontrer une architecture savante avec une main-d'œuvre qui n'est pas rompue à cette complexité? Parce que c'est une architecture quand même très recherchée.
Voilà, c'est une architecture recherchée, mais le commanditaire qui sait ce qu'il veut pour le décor de sa maison, de son hôtel, il a, lui, des modèles, et il va ensuite chercher le sculpteur. On sait, par exemple, que pour le plus célèbre d'entre nous, Bachelier, il n'est pas toulousain, il vient à Toulouse. Et il vient à Toulouse avec un savoir-faire, et il va être avec Castanier, avec d'autres maîtres maçons, il va pouvoir travailler, ce sera le cas, par exemple, à César. Mais il faut penser que l'on a beaucoup de maîtres maçons qui ont cette capacité à Toulouse. On a Louis Privat, on a Émeric Kella, on a évidemment Nicolas Bachelier, à qui l'on doit l'hôtel de César l'hôtel de Bagis, on a Laurent Clary, on a Michel Collin, on a Jean Rancy, donc on a toute une série d'architectes, au sens moderne du terme, hein, mais de maîtres maçons qui savent dessiner, qui savent concevoir et qui savent choisir les décors. Quand Bernuy va commander son hôtel, il demande des décors qui sont hispanisants. La manière dont il fait les colonnes candélabres de sa cour, dont il fait sa galerie, il est de Burgos et il amène avec lui un type de décor que l'on n'a jamais vu à Toulouse auparavant. Et c'est lui qui l'amène. Il n'amène pas un architecte de Burgos. Il amène son projet, il amène son goût, et il dit, vous me faites ça. Et si ce n'est pas bien, on refait, hein, bien évidemment. Et il faut ensuite trouver le sculpteur capable de le faire. Et les parlementaires, alors, Bernuy, bah, il fait une architecture hispanisante, hein, et on a fait assez l'exemple, donc rue Gambetta. L'accueil du lycée Fermat. Aujourd'hui, malheureusement, la porte est toujours fermée, mais donc c'est difficile.
Il y a une grille maintenant.
Ah, bon, donc on peut voir un petit peu mieux dans la cour. Mais c'est une des plus belles cours et très intéressante.
Et la deuxième cour aussi.
Ah, la deuxième cour, mais il y a deux époques, évidemment, puisqu'il a fait son chantier en deux époques. Il a acheté une maison-tour médiévale et puis il a grandi par une cour. Donc il y a deux périodes différentes. On voit que, de manière très différente, Bérenguier Meynier, lui, qui est un juriste, il est au Parlement, il veut être dans la mode du Val-de-Loire. Et donc, il introduit de manière très différente ses pilastres ornés de candélabres. Et quand, dans la troisième époque de l'hôtel du Vieux Raisin, on prendra des modèles qui, eux, viennent directement de Fontainebleau. Avec ces atlantes, ces personnages, ces vieillards et ces vieilles femmes aux jambes tournicotées, là, qui évoquent tout à fait la galerie François Ier à Fontainebleau, avec des inspirations italiennes, puisque ce sont évidemment des Italiens qui travaillent à Fontainebleau. Donc chaque propriétaire sait ce qu'il veut, il a des modèles, soit dessinés, soit en livre, et il va
pas choisir sur catalogue, mais enfin il va dire... Ça me plaît, c'est ça que je veux.
Voilà, hein, absolument. Voilà. Dans la première moitié du XVIe siècle, de plus en plus de livres et de plus en plus de gravures qui circulent, de modèles
aussi,
qui circulent. Par exemple, on évoquait l'hôtel du Vieux Raisin, ces extraordinaires atlantes aux jambes entrelacées. Eh bien, on avait, par exemple, dans le monde bourguignon, Hugues Sambin, qui a publié des recueils de gravures avec ces personnages, qui étaient utilisés d'abord par les menuisiers et les luthiers, ceux qui faisaient des buffets, ceux qui faisaient des meubles, et qui avaient besoin de ce décor pour les cabinets, pour les meubles. Mais les mêmes dessins peuvent servir à faire des encadrements de fenêtres, et c'est ce qui se fera justement à l'hôtel du Vieux Raisin.
Alors, à côté de cette architecture vraiment patricienne, hein, si je puis m'exprimer ainsi, on a quand même, ça ne mobilise pas toute la surface de Toulouse, bien sûr, ce sont des éléments qui sont répartis. Alors on a le quartier parlementaire, on a le quartier marchand, mais à Toulouse en général, quand on n'a pas les moyens de construire ces très belles demeures, on fait comment ?
On continue à construire ces petites maisons, absolument, voilà. Comme on le faisait précédemment au XVe siècle, après le grand incendie. Si ce n'est que ces maisons modestes, elles vont disparaître les unes après les autres dans les reconstructions des XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle. Donc aujourd'hui, je pense que nos amis les Toulousains de Toulouse avaient fait un peu un inventaire des maisons à pans de bois. Il en reste environ 200.
Hein, oui, 200 à Toulouse. À 250, oui.
Voilà. Et sur ces 200-250, je dirais la moitié ou les deux tiers sont des maisons tardives des XVIe et XVIIe siècles.
Oui.
On construit... très tard à Pont-de-Bois. Et donc, ce n'est qu'à partir du XVIIIe siècle, quand, à nouveau, l'économie le permet, que les propriétaires ont les moyens, ont fait un héritage, ou on reconstruit sa maison, et on va le reconstruire en briques, sous le style du XVIIIe, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, puis ensuite au XIXe siècle, combien de maisons à Pont-de-Bois disparaissent à Toulouse, parce que sous la Restauration, sous Louis-Philippe, on va reconstruire son immeuble avec tous les profits, puisque ce sont des immeubles bien souvent plus individuels,
de rapport
avec des appartements locatifs, donc il y a là des investissements, et toute cette architecture médiévale disparaît peu à peu dans les reconstructions postérieures. sauf les très beaux hôtels. Et encore, on a des exemples où des hôtels, je pense à l'hôtel de... ça y est, je vous le dis.
où était-il?
Rue Croix-Baragnon, l'hôtel on a tout à fait l'exemple de l'hôtel du fort de Saint-Jory, qui était bâti dans les années 1470 et qui a été le plus bel hôtel de Toulouse, parce que c'était l'hôtel du Juge-Mage de Toulouse, et c'était là où descendaient toutes les grandes personnalités avant même que le président du Parlement le premier président du Parlement et son hôtel particulier, c'est l'hôtel de Siron, la chambre de commerce d'aujourd'hui, mais mitoyen se trouvait l'hôtel du fort de Saint-Jory, le plus bel hôtel de la ville, deux tours. On sait par exemple que Bernuy va demander à son architecte de copier les tours et les décors de l'hôtel de Saint-Jory. Et en 1770, le nouvel acquéreur va décider de raser cet hôtel, parce qu'au au milieu du XVIIIe siècle, on est à la fin du règne de Louis XV, 1770-1780, on ne peut pas imaginer vivre dans un hôtel gothique. Donc on va raser cet hôtel gothique de la rue Croix-Baragnon, même si c'est le plus beau de la ville, pour construire un nouvel hôtel particulier, qui sera, lui, tout à fait à la mode Louis XVI.
Voilà. Donc mais c'est le propre des villes de se construire en strates sur avec des démolitions, parfois justifiées par le fait d'avoir des parcelles plus grandes. Hein, on l'a dit tout à l'heure. Et puis c'est l'évolution de la ville aussi, et ça permet aussi de pouvoir lire des époques successives qui correspondent à l'évolution de la ville. Et à Toulouse, je pense qu'on est très gâtés de ce point de vue-là, parce qu'on a vraiment échelonné sur beaucoup de siècles un petit peu tous les spécimens de construction qui subsistent.
Voilà, ouais.
Merci beaucoup, Guy, encore une fois.
Avec plaisir.
Pour cette évolution décrite. Merci.
Bonne semaine.